Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Pour cette pause hivernale, je vous propose de réécouter d'anciennes lettres, peut-être de les découvrir si vous nous rejoignez. Et pour cette semaine de Noël, ce sera un accompagnement musical, des chansons qui racontent l'histoire américaine, des morceaux que vous avez forcément entendus. On y parle construction de la nation, guerre du Vietnam ou plus simplement de Noël, car Mariah Carey a fait de son All I Want for Christmas une institution saisonnière. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bonne écoute.
Hello everyone, c'est donc une lettre d'Amérique musicale que je vous envoie cette semaine et rendons à César ce qui est à mes confrères. L'idée m'est venue en écoutant une émission de l'excellente radio américaine NPR, NPR en français, qui a fait une série de reportages sur ce qu'elle a appelé les 50 hymnes américains. Alors, hymne au sens large, bien évidemment, il s'agit de 50 chansons, 50 morceaux qui racontent d'une façon ou d'une autre. En fonction du contexte, une partie de l'histoire américaine. Alors, je vais pas vous faire le top 50, j'ai choisi quatre morceaux que vous avez sans doute déjà entendus. Puisque le but, c'est de raconter l'histoire des États-Unis, on commence bien sûr par l'hymne américain, The Star-Spangled Banner. Alors, The Star-Spangled Banner, la bannière étoilée, a été composé en 1814 par un avocat et poète amateur, son nom Francis Scott Key. Il l'a composé lors de la guerre anglo-américaine qui a débuté en 1812, une guerre qui a été aussi appelée la Seconde Guerre d'indépendance avec l'Angleterre. Donc, ce conflit qui a été entre autres engagé parce que les Américains souhaitaient s'étendre vers le Canada. Et c'est en admirant la résistance des soldats américains face au bombardement de la Royal Navy à Baltimore que Francis Scott Key a écrit ces paroles. Le morceau a d'abord été reconnu comme l'hymne de la marine et puis comme l'hymne américain en 1931. Alors il y a quatre strophes, mais les Américains connaissent surtout la première et le refrain. Alors je ne vais pas vous chanter, mais je vais vous traduire la première strophe. Je vais laisser Lady Gaga chanter l'hymne, ce sera beaucoup mieux. C'était lors du Super Bowl en 2016.
Oh, say, can you see
Dites-moi, voyez-vous aux premières lueurs de l'aube? Ce que nous saluons si fièrement aux dernières lueurs du crépuscule. Et dont les larges bandes et les étoiles brillantes dans la bataille périlleuse au-dessus des remparts que nous gardions flottaient si vaillamment. Alors c'est un hymne très difficile à chanter, disent les professionnels. Il faut monter très haut, notamment sur le refrain qui se termine ainsi. Est-ce que la bannière étoilée flotte encore sur la terre de la liberté et la patrie des courageux? l'hymne américain résonne très souvent pendant les compétitions sportives. Vous l'avez entendu par exemple pendant les Jeux Olympiques et ça résonne aussi lors du Super Bowl. À partir de 2016, eh bien, il a servi de caisse de résonance pour certains joueurs de football américain. Alors pas seulement, mais ça a commencé avec ce sport. Colin Kaepernick, un nom qui vous dit sans doute quelque chose, joueur des 49ers de San Francisco, il a été le premier à mettre un genou à terre pendant l'hymne américain pour protester contre le racisme et les violences policières envers les minorités. C'était en pleine campagne électorale pour l'élection de 2016. Ça lui avait valu notamment les foudres de Donald Trump qu'il avait copieusement insulté. Pour terminer sur l'hymne américain, il y a parfois eu des ratés aussi. L'un des plus célèbres, c'est celui de Carl Lewis, immense athlète, 9 fois champion olympique. Il a voulu interpréter l'hymne avant un match de basket en 1993. C'était entre New Jersey et les Chicago Bulls. Et voilà ce que ça a donné.
All right, are we all ready? Oh, say, can you see? And the Rockets, red flag.
Uh-oh. Carl Lewis qui essaie de se reprendre en disant qu'il va arranger ça. Et en retour plateau, les animateurs d'émission sont pris d'un énorme fou rire. Pour une fois, Carl Lewis était attaqué à un défi trop grand pour lui. Alors, je disais qu'on terminait là-dessus, mais on ne peut pas refermer ce chapitre sans évoquer aussi une autre version, une version stridente, celle de Jimi Hendrix. Une version saturée lors du festival de Woodstock et c'était pour illustrer de façon sonore les bombardements pendant la guerre du Vietnam. Deuxième étape de ce podcast consacré aux morceaux musicaux de l'histoire américaine, on change de style et de catégorie. Ça va peut-être vous surprendre, mais on va parler de cette chanson. I Will Survive de Gloria Gaynor, un hymne à la fête, lancé en 1978 en pleine période disco, relancé en France 20 ans plus tard lors de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de football. C'est Vincent Candela qui avait lancé cet hymne officieux au sein des champions du monde, des futurs champions du monde. Mais avant d'être festif, cette chanson a été aux États-Unis un hymne pour les personnes qui s'estimaient marginalisées ou opprimées, la communauté gay par exemple, mais aussi les femmes brimées, battues. Alors, Gloria Gaynor avait connu son heure de gloire en 1975 en reprenant un titre phare des Jackson 5, Never Can Say Goodbye. Et puis, sa maison de disques ne croyait plus vraiment en elle. Et puis, elle a eu des problèmes personnels. Sa mère est décédée. Elle a eu aussi une grave chute qui l'a immobilisée plusieurs mois. Et puis, coup de pouce du destin, il y a eu un changement à la direction de la maison de disques. On appelle alors Gloria Gaynor pour enregistrer un titre qui s'appelle Substitute. À l'époque, vous savez, on enregistrait pour des 45 tours. Les plus jeunes d'entre vous, les 45 tours, c'était un objet rond préhistorique qui permettait d'écouter de la musique hein, avec une face A et une face B. Et donc, Gloria Gaynor enregistre la face A, donc Substitute. Et puis lors de l'enregistrement, la journée a été plutôt longue, mais avant de partir, on lui demande quand même, puisque c'est dans le contrat, c'est une obligation, on lui demande d'enregistrer une face B assez rapidement, avec un morceau que des auteurs avaient dans des cartons depuis plusieurs années. Ce morceau, c'est I Will Survive. Et 3 semaines plus tard, eh bien, ça devient un énorme tube. Il est joué d'abord dans la boîte de nuit new-yorkaise du moment, qui s'appelait le Studio 54, et dans la discothèque Ça Plaît. Et ce qui fonctionne à l'époque au Studio 54 fonctionne ensuite un peu partout. Les DJ se passent le morceau qui devient un hit mondial à partir d'octobre 1978. Ce tube qui coïncide avec le début du sida, la communauté gay l'utilise comme étendard notamment pour le rythme et l'appel à la fête. Mais plus généralement, I Will Survive est devenu un ralliement pour tous ceux qui se sentaient déclassés, politiquement réprimés, physiquement différents, en clair, ceux qui se voyaient en marge de la société. Ça incluait les femmes victimes de violences domestiques. Et Gloria Gaynor est d'ailleurs devenue une porte-parole active des femmes battues ou des femmes sous emprise. Alors, si ce morceau est devenu un hymne au courage, c'est en raison de son titre et de son message, simple mais efficace, Quoi qu'il arrive dans la vie, je m'en sortirai, je survivrai. C'est en effet un principe que beaucoup de monde peut imaginer adopter, en tout cas, notamment à travers le premier couplet. Au début, j'avais peur, j'étais pétrifié, en pensant sans arrêt que je ne pourrais jamais vivre sans toi, près de moi. Mais depuis, j'ai passé tant de nuits à penser à comment tu m'avais fait du mal, je me suis endurci et j'ai appris à me débrouiller. Voilà pour Gloria Gaynor et son hymne à la vie, un hymne d'abord chanté à New York et puis dans tous les États-Unis avant de se diffuser, d'être diffusé dans le monde entier. On va continuer à danser, en tout cas à écouter un morceau entraînant, puisque après les boules à facettes et la disco, je vous propose la bamba. En 1987, un groupe de Los Angeles enregistre une version de La Bamba qui se classe numéro 1. Et c'est un événement parce que c'était la première fois qu'une chanson en espagnol était numéro 1 aux États-Unis. Une chanson interprétée, réinterprétée par le groupe Los Lobos. Alors, c'était en fait la BO, la bande originale d'un film qui racontait l'histoire de Richie Valens, un adolescent de 17 ans qui a enregistré et adapté. La bamba, c'est un vieux morceau mexicain en fait avec des influences également de musique africaine. Là encore, à l'origine, c'était une phase B, mais c'est devenu assez rapidement un succès quand il sort en 1958. Richie Valens, le jeune Richie Valens, devient une star. Malheureusement, il ne va pas profiter longtemps de son succès puisqu'il meurt quelques mois plus tard dans un accident d'avion. Alors, on était à la fin des années 50, hein. La ségrégation existe encore dans beaucoup d'États du sud des États-Unis. Par exemple, dans les écoles publiques, il était mal vu souvent de parler espagnol. Mais la bamba de Richie Valens est bien plus qu'une chanson espagnole, parce qu'à l'époque, c'était aussi un hymne rock'n'roll pour les adolescents américains. C'est pour ça que cette chanson a aussi une vertu libératrice. Ce morceau d'ailleurs a eu une résurgence, une histoire assez exceptionnelle bien plus tard, hein, en 2018, dans le Tennessee, lors d'une manifestation de groupes néo-nazis, de suprémacistes blancs. Pour calmer les esprits, des pacifistes ont eu l'idée d'amener un énorme sound system, un énorme poste radio. Ils ont diffusé à fond la bamba pour couvrir les messages de haine. Voilà, des dizaines d'Américains de toutes races, de toutes couleurs sont mis à danser, ce qui a perturbé fortement les manifestants racistes. Et c'est sans doute l'une des plus belles réponses jamais apportées à un message de haine. On termine avec un autre morceau mythique de l'histoire américaine. L'artiste est toujours vivant et en pleine forme. J'ai failli le voir pour la première fois il y a quelques jours lors d'un concert à New York à Central Park, mais le concert a été annulé, en tout cas interrompu au beau milieu à cause de la pluie, ce qui était très dommage et très frustrant. Le morceau dont nous allons parler est antérieur à celui de Los Lobos, puisque Born in the USA de Bruce Springsteen date de 1984. Alors, cette chanson, elle décrit le difficile retour au pays d'un vétéran de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, la première version de cette chanson iconique du boss s'appelait Vietnam. Et il y a une sorte d'incompréhension sur ce morceau, parce que c'est vrai que si on s'attache au seul titre, on peut avoir l'impression que c'est un hymne patriotique. Et Chris Christie, qui est l'ancien gouverneur du New Jersey, l'État dont est originaire Bruce Springsteen, racontait que dans les concerts, quand Springsteen interprétait ce morceau avec son bandana, son t-shirt américain, bien, la plupart des spectateurs considéraient que c'était un hymne à l'Amérique, une ode à la chance d'être né aux États-Unis, alors que les paroles, c'était plutôt de dire « Je suis né aux États-Unis et je méritais beaucoup mieux que ça à mon retour du Vietnam. » Confusion qui est allée jusqu'à la Maison Blanche, puisque le président de l'époque, Ronald Reagan, avait pris en exemple Born in the USA en estimant que cette chanson était l'illustration du rêve américain. Alors, ce n'est pas du tout ça en fait, mais Bruce Springsteen en a plaisanté, déclarant pendant un concert que la chanson n'avait pas été comprise, mais bon, la façon dont elle avait été interprétée a fait aussi son succès, ça il l'a reconnu, il l'avait même rendu riche. Il avait même dit, mes parents et mes enfants vous remercient. Voilà, alors ça l'agaçait quand même un petit peu. Du coup, Bruce Springsteen interprète parfois son titre phare en version acoustique, parce qu'il y en fait il en a fait un gap hein, entre les couplets avec des paroles assez tristes et profondes et un refrain qui peut être considéré comme joyeux et éminemment patriotique. Il l'interprétait en acoustique, c'est aussi une façon d'obliger les gens à s'intéresser aux paroles. Voilà, c'est donc avec le boss que l'on conclut cette lettre d'Amérique musicale. En préparant ce numéro, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres chansons qui pouvaient accompagner l'histoire des États-Unis. Il y aura sans doute donc un deuxième numéro ces prochains mois. On se quitte avec l'hymne américain et ce qui est considéré par beaucoup comme la plus réussie des interprétations. C'était en 1991, lors du Super Bowl, avec Whitney Houston. Un hymne, je vous le disais, très difficile à interpréter, mais la chanteuse américaine a ce jour-là impressionné le stade et tous les Américains. Thank you and goodbye. Hello everyone. Deuxième épisode de notre série sur les chansons qui ont fait l'Amérique. Alors, qui ont fait l'Amérique, qui racontent en tout cas quelque chose des États-Unis. Le premier épisode, c'était à la rentrée, fin août, et on finit ce trimestre et l'année en chansons. On va commencer par un morceau qui s'appelle The Battle Hymn of the Republic, l'hymne de la République, l'hymne de la bataille de la République, Comme ça, le titre ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vais vous faire écouter un extrait et ça va sans doute vous parler un peu plus.
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.
Alors là, c'est Johnny Cash, mais le morceau original est beaucoup plus ancien puisque ça remonte à la guerre civile américaine. J'y reviendrai. C'est un morceau que vous avez peut-être entendu dans des films ou des séries. Il a été utilisé de très nombreuses fois, notamment son refrain « Glory, glory, hallelujah ». Une chanson chantée dans les églises américaines, à l'école, des syndicats en ont fait également un hymne. C'est une chanson assez rythmée, cadencée, facilement utilisable lors de marches militaires par exemple, ou lors de marches en forêt pour les scouts. La chanson a été utilisée aussi politiquement. Par exemple, lors de l'élection présidentielle en 1964, le candidat républicain était Barry Goldwater. Barry Goldwater était un sénateur de l'Arizona, considéré comme le fondateur du parti républicain moderne qui a conduit à la victoire de Ronald Reagan dans les années 80. Et Barry Goldwater et son équipe ont produit un clip de campagne qui présentait l'élection comme un choix entre deux Amériques.
This America is an ideal, a dream.
Une Amérique idéale avec l'hymne du Battle Hymn sur des images des fondateurs de la Constitution, des enfants qui agitent le drapeau américain, des bûcherons qui coupent du bois, etc. Et de l'autre côté, l'autre choix de l'Amérique, cette fois sur une musique beaucoup plus lourde, beaucoup plus inquiétante, une Amérique présentée comme cauchemardesque avec des manifestants communistes, des adolescents qui dansent sur du rock, signe d'une société dépravée. A l'inverse, la veille de son assassinat en 1968, Martin Luther King a prononcé son célèbre discours « J'ai été au sommet de la montagne », un discours qu'il a terminé en citant le premier vers de l'hymne de la République. Ça donne ceci « Je suis heureux ce soir, je ne m'inquiète de rien, je ne crains aucun homme, mes yeux ont vu la gloire de l'avènement du Seigneur ». Son église à Atlanta a repris la chanson après sa mort pour en faire un hymne à sa mémoire et un hymne pour le mouvement des droits civiques. L'hymne de la bataille de la République, vous voyez, flexible, que vous battiez pour la liberté individuelle ou pour les libertés plus généralement, mais toujours avec Dieu à vos côtés. Alors d'où vient cette chanson ? Nous sommes au milieu de la guerre civile, des soldats unionistes, partisans des États-Unis d'Amérique, d'Abraham Lincoln, mangent. Ils sont au coin du feu, ils se reposent. Un soldat écossais, John Brown, compose la chanson avec ses camarades et ça devient rapidement célèbre parmi les unionistes parce que déjà elle était facile à se remémorer, puis parce qu'elle était clairement contre l'esclavage. Les soldats afro-américains s'emparent aussi de la mélodie et ajoutent leurs propres paroles, comme « on a fini de biner le coton, on a fini de biner le maïs, mais on est des soldats yankees de couleur ». Et un peu plus tard, une poète new-yorkaise ou une poétesse, Julia Ward Howe, réécrit ce morceau. C'est devenu la version connue des Américains. D'abord une chanson de guerre, donc, puis une chanson de combat social, des combats, donc, on l'a vu, très différents selon les perspectives. La deuxième chanson dont je vais vous parler date de 1974 et c'est un riff de guitare que vous avez sans doute déjà entendu. « Sweet Home Alabama du groupe Lynyrd Skynyrd, un groupe important dans l'histoire américaine, fondateur de ce qu'on a appelé le rock sudiste, un morceau qui est devenu un symbole pour l'Alabama, bien sûr, mais aussi pour le sud des États-Unis, ce que l'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé parfois le sud profond. Et à travers cette chanson, cette question, peut-être un peu provocante, mais on verra, qui est celle-ci, ce titre, et plus généralement le groupe, était-il raciste ? Alors, petite étrangeté pour commencer, aucun des auteurs de ce morceau n'est originaire de l'Alabama. Il venait de Floride ou de Californie. L'Alabama sera leur état d'adoption. Alors, pour comprendre la création de Sweet Home Alabama, il faut parler de Neil Young, qui est un chanteur-compositeur de talent, important dans l'histoire du rock. Le leader de Lynyrd Skynyrd était d'ailleurs un fan de Neil Young au début, mais il ne baignait pas vraiment dans le même univers. Neil Young est très libéral, et pour lui, le Sud américain représente tout ce qu'il déteste. Et il le reconnaîtra plus tard d'ailleurs, il n'hésite pas à faire des généralités. En 1971, il sort donc ce morceau, Southern Man, l'homme du Sud. La chanson aborde le racisme dans le sud américain. Elle fait plusieurs références au passé esclavagiste de l'État, des liens avec le Ku Klux Klan. Et dans l'ensemble, le portrait fait de l'état d'accueil de Lynyrd Skynyrd n'est pas très reluisant, loin de là. Quelques années plus tard, Neil Young récidive avec une autre chanson qui s'appelle cette fois tout simplement Alabama. Là, c'en est trop pour Lynyrd Skynyrd, qui décide de contre-attaquer ces stéréotypes et de contre-attaquer avec les mêmes armes, c'est-à-dire en chanson. C'est la naissance de Sweet Home Alabama, où le groupe s'adresse directement à Neil Young, qui est donc cité dans leur chanson, et ça donne ça. J'ai entendu que M. Young chantait sur elle, la terre du sud, l'Alabama. J'ai entendu que le vieux Neil la dénigrait. J'espère que Neil Young se souviendra qu'un homme du sud n'a pas besoin de lui dans les parages. Alors, une réponse donc au stéréotype de Neil Young, mais même si le groupe ne dissipe pas non plus tous les malentendus, par exemple, il se produit à nombreuses reprises devant un drapeau confédéré. Et ce n'est pas forcément la meilleure façon de se dédouaner de tout penchant raciste, même si beaucoup de personnes qui ont vécu cette époque expliquent en fait que pour eux, le drapeau confédéré, c'était plus un drapeau identitaire qu'ils voyaient depuis tout petit qu'un drapeau avec connotation raciste. Dans un documentaire, Ronnie Van Zandt, l'un des membres du groupe, dira ceci: « Tout le monde pense que nous sommes une bande de ploucs ivres ». Et c'est vrai. Et puis, il y a un passage qui fait débat aussi dans Sweet Home Alabama, parce qu'il fait référence à l'un des politiques les plus controversés de l'État, George Wallace, qui était gouverneur au moment de la sortie de la chanson. Deux déclarations de George Wallace pour vous présenter le personnage à l'époque. « Jamais on ne me fera passer pour un ami des nègres » ou encore « Ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain, ségrégation toujours ». Alors, c'est aussi lui qui est à l'origine d'un événement important dans la lutte pour les droits civiques. En 1963, il s'oppose à l'entrée de deux étudiants afro-américains à l'université de l'Alabama. Ils ont dû partir escortés par la garde nationale. C'est l'une des images fortes de ce combat pour les droits civiques dans les années 60. Trois mois plus tard, le Ku Klux Klan mènera un attentat sur une église baptiste, tuant quatre jeunes filles noires. Martin Luther King accusera George Wallace de susciter toute cette haine. Alors, pour revenir à Lynyrd Skynyrd, la chanson en fait est assez complexe parce que certes, ils évoquent George Wallace, mais sur le moment, beaucoup oublient qu'après avoir cité le gouverneur, il y a ça. Ça, ce sont trois bouts, c'est-à-dire des huées qui font toute la différence, évidemment, et qui signifient que le groupe, en fait, ne l'aime pas et le critique au lieu de l'encenser. Et il semble que, en fait, le but de Lynyrd Skynyrd était de promouvoir en fait, une liberté du sud des États-Unis et pas du tout le racisme, même si le racisme n'était pas absent, loin de là, dans le sud des États-Unis à cette époque. En 1977, trois ans après le succès phénoménal de Sweet Home Alabama, trois membres du groupe et leur manager meurent dans un accident d'avion au cours d'une tournée. L'avion en fait s'est écrasé par manque de carburant. Le groupe se reformera plus tard avec des survivants et d'autres musiciens.
quelques semaines après l'accident, Neil Young, on y revient, donne un concert de charité à Miami et il offre à ses fans un medley émouvant de Alabama, son morceau, et de Sweet Home Alabama, le titre phare de Lynyrd Skynyrd, en hommage bien sûr au groupe. Troisième chapitre avant d'évoquer et de conclure sur une chanson de Noël. Quelques minutes en compagnie de Frank Sinatra. Et pour commencer, on va pousser un cocorico, puisque l'une de ses chansons les plus emblématiques, vous connaissez sans doute l'histoire, c'est une reprise d'une chanson française, le fameux « Comme d'habitude » de Claude François.
Tu ne te réveilles pas comme d'habitude.
À l'époque, on est à la fin des années 60. Paul Anka a entendu le tube de Claude François lors d'un séjour en France et il l'a proposé tout de suite après à Frank Sinatra.
My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain I've lived.
Alors ils reprennent la mélodie, mais ce ne sont pas du tout les mêmes paroles ni les mêmes histoires. Alors si Claude François raconte un couple fin de course, un couple qui ne s'aime plus, Frank Sinatra est plutôt sur une ode à l'individualisme américain. Alors déjà, c'était une chanson assez inhabituelle pour lui, puisque le crooner était surtout connu pour interpréter des chansons d'amour. On est à la fin des années 60 et Frank Sinatra fait partie de ces stars qui sentent que le vent musical est en train de tourner. Et en 1969, les groupes de rock comme les Rolling Stones ou les Beatles bousculent les crooners comme lui. Il faut donc tenter autre chose. Paul Anka, lui-même chanteur, plutôt pour adolescente à l'époque, a donc décidé d'acquérir les droits de Comme d'habitude et il écrit de nouvelles paroles en pensant à son idole Frank Sinatra. Il va donc créer My Way et il fera de son interprète un symbole de l'Amérique sûre d'elle, courageuse. Certains y ont vu aussi une métaphore de la génération post-Seconde Guerre mondiale, une génération qui assume ses actes. Alors qu'est-ce qui fait dire ça, notamment ses paroles?
I did it. My way.
I did it my way. J'ai agi comme je l'entendais. Voilà ce que je voulais vivre, ce que je voulais faire, et je l'ai fait sans regarder en arrière. Un autre passage où il dit
regrets, I've had a few.
Des regrets, j'en ai un peu, mais pas suffisamment pour les mentionner.
Too few to mention.
En fait, c'est une chanson qui est un symbole de la confiance en soi, du fait qu'il faut aller tout droit. Certains l'ont critiqué aussi en estimant que c'était une chanson qui pouvait justifier un peu tout et n'importe quoi. Alors, je vous avais déjà raconté, je crois, dans une lettre d'Amérique, ma rencontre avec Joe Arpaio en Arizona. Vous savez, c'est cet ancien shérif terreur des immigrés clandestins qui l'enfermait dans des prisons à ciel ouvert comme des bagnards. Il leur mettait des chaînes aux pieds. Et quand je lui avais demandé s'il n'avait pas des regrets sur ce qu'il avait fait, bah, il m'avait fait écouter la messagerie de son téléphone portable, qui était en fait « My Way » de Frank Sinatra, pour me signifier que non, il n'avait pas de regrets et qu'il avait agi en son âme et conscience. Alors, quant à Frank Sinatra, au final, les années passant, il en a eu un peu marre qu'on le renvoie tout le temps à cette chanson, même si elle a contribué à agrandir son mythe. Elvis Presley l'a reprise aussi, les Sex Pistols également, et plus récemment Jay-Z, qui l'a réinterprété et mixé, mixé la version de Paul Anka. Alors c'est intéressant parce que ça illustre les différentes interprétations évidemment de ce morceau, et dans la bouche de Jay-Z, c'est plus considéré comme un message affirmant qu'il faut être soi-même et ne pas laisser les autres vous dire comment vivre. Vous voyez, on est un petit peu à la frontière, là, on est un peu moins sur l'individualisme, mais on peut faire dire un peu tout et n'importe quoi, effectivement, à cette chanson. En somme, ce morceau, bah, c'est une ode au choix, au libre arbitre. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis allé au bout, sans concession. on peut dire que c'est une illustration sonore du fameux self-made man à l'américaine. Alors, puisque ce sont les fêtes de fin d'année, on ne pouvait pas se quitter sans un air de Noël. Et un peu partout dans le monde, encore plus aux États-Unis, quand arrive le mois de décembre, pointe le bout du nez de cette chanson, peut difficilement y échapper. Mariah Carey, donc, et son très célèbre All I Want for Christmas à la télévision, dans la rue, sur les marchés Noël, dans les magasins. Alors, c'est devenu le symbole de cette période. Tous les ans, au mois de décembre, le titre est d'ailleurs en tête des écoutes sur les différentes plateformes. Il y a quelques jours, il est même devenu la première chanson de Noël à obtenir la consécration du titre de diamant, c'est-à-dire qu'il a été acheté plus de 10 millions de fois. Et il a été aussi streamé plus de 1 milliard de fois. Alors, Mariah Carey l'a composé en 1994, très rapidement, dit-elle, en 15 minutes, selon la légende. C'est pas vraiment si c'est vrai. Et elle l'aurait vu après, elle l'aurait composé, pardon, après avoir vu le film La vie est belle de Frank Capra. Alors, c'est un titre qui participe aussi à la fortune de Mariah Carey. Elle vient d'ailleurs de faire une publicité pour McDonald's où elle dit: tout ce que je veux pour Noël, c'est que vous testiez le menu Maria. Alors, dans la chanson, elle dit qu'elle n'a pas besoin de cadeaux. Hein, tout ce qu'elle veut, c'est la présence de ses proches. Mais bon, un nouveau contrat, ça ne se refuse pas non plus. Et selon The Economist, ce titre lui rapporterait plus de 2,5 millions de dollars par an. Et ça ne comprend pas tout ce qui est merchandising, concerts, livres, autres documentaires. Donc du coup, au final, on serait à près de 5 millions de dollars par an. La répétition saisonnière de cette chanson agace parfois. Il n'est pas impossible que vous l'ayez en tête une partie de la journée après l'avoir entendue. Au Texas, c'est assez marrant, hein, le propriétaire d'un bar avait interdit que ce titre soit joué, soit choisi dans son jukebox plus d'une fois par jour, car son personnel n'en pouvait plus. L'interdiction était valable seulement jusqu'au 1er décembre, parce qu'après, il ne pouvait pas lutter contre l'envie générale irrépressible de ses clients pour écouter ce morceau. Mais pour se quitter, vous n'allez pas y échapper, hein, forcément, mais c'est vrai que c'est un morceau qui est enjoué, entraînant, qui donne un air de Noël. Donc, on va se quitter avec Mariah Carey. Je vous souhaite de très belles fêtes. Profitez-en bien, reposez-vous si vous le pouvez. On se retrouve très vite, soit pour des best-of, soit pour de nouvelles lettres inédites début janvier. Thank you and goodbye. Venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur l'application RTL et sur vos plateformes habituelles.